Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'IPI améliore la recherche sur le développement du système de mesures liées à la qualité du transport national. Le président encourage les jeunes à travailler ensemble pour l'Indonésie. La tolérance et la démocratie de l'Indonésie sont devenus le centre d'attention du monde. Le gouvernement britannique soutient la coopération pour promouvoir le développement en Indonésie. Les résultats de Belt and Road encourage le développement d'Indonésie. Et enfin, l'Université de Gajah Mada, UGM, lors de la réunion scientifique en collaboration avec les Pays-Bas. Voici le journal complet. Les transports deviennent une besoin très importante et une nécessité pour le peuple de l'Indonésie. Les transports doivent être soutenus avec une bonne qualité qui sont construits avec la norme nationale indonésienne SNI. Comme l'a déclaré le chef de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Iskandar Zulkarnain, au séminaire de la commémoration de la Journée mondiale de la métrologie 2017 à Jakarta, mercredi. Selon lui, aujourd'hui, il y a 37 SNI de transport indonésien qui doivent être soutenus par le système de mesures précises, fiables et traçables. LIPI, par le Centre de recherche en métrologie, joue un rôle important dans la recherche et le développement du système de mesure.
Kemampuan pengukuran dan ruang lingkup metrologi harus dikelola.
La capacité et la portée de la métrologie doivent être gérées de façon efficace et doivent toujours regarder en avant pour qu'elles puissent répondre aux exigences de la valeur standard et la précision. En plus de progrès de la science, à présent, il faut avoir la capacité de mesure compétente dans divers domaines tels que l'énergie, les matériaux, les télécommunications et l'information, la santé, le transport et les autres domaines d'application. Il doit être soutenu par la recherche, le développement et l'innovation des mesures pour en conformément à la méthode de mesure et la norme de mesure, ce qui nécessite. Certains rôles de la métrologie dans le soutien au transport national est de fournir une traçabilité des instruments de mesure utilisés tels que PT Garuda Indonesia pour assurer la sécurité des vols. Le chef du Centre de recherche de métrologie de LIPI, Mego Minandito, a dit que LIPI était très actif de participer aux tests comparatifs de mesures du niveau régional Asie-Pacifique ou Interlaboratoire Comparaison Programme de Métrologie Asie-Pacifique, afin que les résultats de mesure soient fiables et reconnus au niveau international. Selon Mego Pinandito, 82 mesures nationales du Centre de recherche métrologie de LIPI ont été enregistrées au Bureau international des poids et des mesures de base de données. Le président Joko Widodo a invité tous les citoyens à cesser d'accuser, insulter, calomnier et protester les uns contre les autres. Les Indonésiens doivent travailler ensemble pour développer le pays. Il a été dit par le président Joko Widodo lors de l'ouverture du 19e congrès du mouvement des étudiants islamiques indonésiens, PMII, à la grande mosquée de Darussalam à Palu, en province de Sulawesi centrale, mardi. Le président a confirmé qu'actuellement, le monde change rapidement et l'Indonésie doit suivre ce développement par un travail positif et avantageux pour le développement du pays. Le président a espéré que le PMII, comme l'une des composantes de la nation, pourrait faire partie de la solution aux différents problèmes de la nation. Nous devons continuer à suivre les changements si nous ne voulons pas être laissés par d'autres pays. Les étudiants sont les strates d'élite dans tous les pays, en particulier l'Indonésie. Par conséquent, les étudiants de PMII doivent faire partie de la solution de cette nation. À la même occasion, le président du conseil d'administration du PMII, Aminuddin Ma'ruf, a invité la jeune génération des membres du PMII à continuer de travailler pour développer le pays, parce que PMII ne veut pas l'existence d'une génération échouée. Le chômage intellectuel est une génération qui pèse sur le pays. Le 19e congrès du PMII durait jusqu'au 19 mai. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Abdulrahman Mohamed Fakhir, a déclaré que la mise en œuvre des principes de la tolérance et de la démocratie en Indonésie était devenue le centre d'attention de nombreux pays. L'Indonésie a reçu l'évaluation des individus, des institutions et des gouvernements, notamment liés à ce qui se passe dans le pays. Cela montre l'importance de l'Indonésie dans le monde international. Il a été annoncé par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Mohamed Fakhir, à l'Université Gadjah Mada à Yogyakarta, mercredi. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie est connue à l'avant-garde dans le maintien des valeurs de la diversité. Le dialogue entre les yeux et le principe de la démocratie sont également l'un des sujets qui est toujours exprimé par l'Indonésie dans le forum international. Fakhir a souligné, bien que la question de la tolérance religieuse en Indonésie soit devenue une préoccupation, mais d'autre part, les efforts du gouvernement pour gérer le problème pour ne pas continuer en conflit est bien apprécié. Le gouvernement britannique soutient la coopération bilatérale pour promouvoir le développement en Indonésie dans divers domaines tels que l'éducation, l'économie et les sports. En commémoration des 91 anniversaire de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne mercredi, l'ambassadeur britannique Indonésie, Muazzam Malik, a déclaré qu'il espérait renforcer les relations avec l'Indonésie car, selon le gouvernement britannique, l'Indonésie jouerait un rôle important au cours du XXe siècle. L'Indonésie a un grand potentiel pour devenir l'un des géants de l'Asie en plus de l'Inde et la Chine. Selon Muazzam Malik, il veut soutenir les efforts du gouvernement du président Joko Widodo de promouvoir l'avenir de l'Indonésie. Dans le domaine de l'éducation, des partenariats de recherche entre les universités du Royaume-Uni et l'Indonésie ont atteint un niveau record en 2016, suivi de 20% du nombre d'étudiants indonésiens qui étudient au Royaume-Uni. Dans le secteur économique, les entreprises britanniques qui font des affaires en Indonésie ont ouvert 1 million d'emplois. L'Observateur économique du Fonds international de développement agricole, FIDA, James Adam, a évalué à Kupang mardi que les résultats de la discussion et de la coopération au sommet international de la coopération de ceinture maritime et des nouvelles routes de soie à Pékin en Chine encouragera diverses projections de croissance économique de l'Indonésie. Il a dit il y avait un certain nombre de résultats obtenus dans cette activité, entre autres, l'augmentation des exportations d'huile de palme brute CPO vers la Chine et la rencontre avec le premier ministre polonais Beata Szydlo pour discuter l'intensification de la coopération économique, les investissements, le tourisme et les infrastructures. C'est ce qu'a affirmé James Adam lié au sommet à Pékin qui discute des efforts pour améliorer la communication et le renforcement de la coopération économique et l'investissement dans un certain nombre de régions qui renforceront la route de la soie de la Chine. Les activités qui existent depuis plusieurs siècles sont faites par les Chinois, seront un pari pour l'Indonésie pour être en mesure de devenir un centre ou hub de l'ASEAN et la Chine dans la zone asiatique. Il a dit que la Chine a l'intérêt depuis longtemps à renforcer la coopération maritime avec les pays membres de l'ASEAN. en particulier l'Indonésie, en profitant les fonds de coopération maritime de Chine et l'ASEAN qui est mis en place par la Chine. L'Université Gadjah Mada, UGM à Yogyakarta, en collaboration avec l'Académie des sciences indonésiennes, AIP, et des instituts de connaissances néerlandais, tiennent la 8e réunion ouverte des sciences OSM à Yogyakarta du 15 au 17 mai 2017. Selon les informations, ces deux institutions néerlandaises sont l'Académie des arts et des sciences du Royaume des Pays-Bas, KNAW, et l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, NWO, des Pays-Bas. Selon le président d'AIP, Sankot Marzuki, la coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas est plus efficace dans la promotion d'excellence académique. Lors de la cérémonie d'ouverture de SM dans la salle du Sénat de l'UGM récemment, Sankot Marzuki a dit « OSM est l'une des rencontres entre l'Indonésie et les Pays-Bas tenues chaque année et participées par des représentants des hommes d'affaires, des décideurs politiques, les enseignants et les chercheurs des deux pays. » Pendant ce temps, un membre du conseil d'administration du NWO, Wim van den Doel, a affirmé « L'Indonésie et les Pays-Bas ont une longue histoire de coopération dans le domaine de la recherche et le développement de la science. » Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers amis de l'antenne, voici donc le commentaire et pour le titre, le président Joko Widodo a rencontré des figures interreligieuses. Certaines figures interreligieuses ont rencontré récemment le président Joko Widodo au Palais d'État Jakarta. Ils ont exprimé leur soutien au gouvernement pour mettre fin à tous les efforts qui pourraient poser des conflits dans la communauté. Ils font également appel au public, bien que l'Indonésie soit en paix démocratique, en transmettant les aspirations, il devrait se trouver dans le bon couloir du droit de la politesse, de la civilisation et se référer à la bonne moralité. En outre, il soutient également les efforts visant à renforcer l'idéologie de l'État, Pancasila, et la Constitution 1945 dans le cadre de l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, et l'unité dans la diversité, Bhinneka Tunggal Ika. À cette occasion, le président Joko Widodo a également ordonné au chef de la police nationale, Tito Karnavian, et au commandant en chef des forces armées, Gatot Nurmantio, de ne pas hésiter à réprimer toutes les formes de discours de haine et les actions qui perturbent l'unité et la fraternité. Les responsables de l'application de la loi doivent également être en mesure de maintenir l'autorité et la position ferme et être justes lorsqu'ils voient des événements qui nuisent à la nation et à l'État, au lieu de jouer un rôle dans l'affaiblissement de la loi. Pour la nation indonésienne, l'État unitaire de la République d'Indonésie, NKRI, est un préfixe qui doit être maintenu ensemble. Mais l'État peut être divisé si les gens ne se respectent pas. Il est temps pour tous les éléments de la nation de prendre la responsabilité de maintenir la diversité et la fraternité dans le cadre de l'État unitaire de la République d'Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis de l'antenne, pour la boucle suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec la Journée internationale des musées. Le 18 mai 1978, pour la première fois, est célébrée la Journée internationale des musées. La détermination d'aujourd'hui est le contenu des résolutions émises par le Conseil international des musées lors de sa 12e séance à Moscou le 28 mai 1977. Selon cette résolution, la mise en place de la Journée internationale des musées vise à plus attirer l'attention du public sur l'activité de musée comme un moyen d'échange et d'enrichissement culturel et à renforcer la compréhension et la paix entre les peuples du monde. La transformation est sur l'éruption volcanique dans l'État de Washington le 18 mai 1980. Après plus d'un siècle de repos, le volcan du Mont Saint-Helens, d'une hauteur de 3000 mètres au nord-est de Portland, aux États-Unis, se réveille. Une explosion d'une puissance égale à 500 fois celle d'Hiroshima a lieu et le mont s'affaisse de 400 000, provoquant une avalanche de débris. Cette éruption provoque 57 morts. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement l'occupation du bâtiment de DPR-MPR-RI par les étudiants. Dans un état qui est sous contrôle après une situation tendue pendant quelques jours depuis la tournage d'un étudiant de Trisakti et des émeutes en Indonésie, le 18 mai 1998, lundi après-midi, des centaines d'étudiants du Forum Urbain, ensemble avec le Forum communautaire des étudiants de Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ont réussi à entrer au bâtiment de DPR-MPR. Ils ont insisté l'enquête de la fusillade de l'étudiant de Trisakti, le rejet de la nomination à nouveau de Suharto en tant que président, la dissolution de DPR-MPR en 1998, la formation d'un nouveau gouvernement et la reprise économique dès que possible. Serge Tar, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150. 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Serviteur, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « Le Campement National Scout Madrasah ou PPMN 3-2017 est le moment pour faire face à la communauté économique de l'ASEAN et AFTA ». Le ministre des Affaires religieuses de la République d'Indonésie, M. Lukman Hakim Saifuddin, a souhaité que le Campement National Scout Madrasah ou PPMN 3-2017 puisse devenir le moment de faire face à la libre concurrence de la communauté économique de l'ASEAN et la zone de libre échange de l'AFTA avec le défi de la compétitivité des ressources humaines qui est de plus en plus évidente. Selon M. Lukman Hakim Saifuddin, l'Indonésie ne devrait plus être fière de la richesse naturelle. La richesse des ressources naturelles sans soutenir de l'excellence de la qualité des ressources humaines et de l'intégrité pourrait tourmenter et humilier la nation. À travers le mouvement Scout, à travers PPMN 3, le ministère des Affaires religieuses est engagé à développer les jeunes à devenir les citoyens supérieurs et responsables. Cela a été déclaré par Lukman Hakim Saifuddin à l'ouverture du Campement National Scout Madrasah PPN 3 en 2017 qui a eu lieu dans l'urgence de Bangka Tengah, la province des îles Bangka Belitung, le mardi 16 mai 2017. Le ministre Lukman Hakim Saifuddin a déclaré qu'à travers les valeurs de Dasadharma, les scouts enseignent la compétence, la discipline, l'autonomie, la solidarité, l'intégrité et la responsabilité. Les valeurs de l'idéalisme du mouvement scout sont très importantes et deviennent une condition pour l'Indonésie d'être un pays développé, l'excellence et la compétitivité. À l'ère de la communauté économique de l'ASEAN et AFTA, il a demandé aux scouts de faire l'innovation de modèles d'éducation et de formation éclair dans les courants rapides de la compétition d'aujourd'hui. Les scouts aujourd'hui doivent être intelligents dans la technologie de l'information et doivent également être en mesure d'ouvrir une nouvelle entreprise. Ainsi, beaucoup de jeunes entrepreneurs formés par la naissance du scout. Le campement national Scout Medersa PPMN 3 2017 a eu lieu de 14 au 20 mai, participé par plus de 800 participants de 34 provinces de l'Indonésie. Chaque province envoie 20 personnes comprenant des fils et des fils. Pendant un contingent de succursales à travers la province Bangka Belitung a envoyé 32 personnes composées des fils et des filles. Chers amis, c'est à la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Les transports deviennent une besoin très importante et une nécessité pour le peuple de l'Indonésie. Les transports doivent être soutenus avec une bonne qualité qui sont construits avec la norme nationale indonésienne SNI. Comme l'a déclaré le chef de l'Institut indonésien des sciences, LIPI, Iskandar Zulkarnain, au séminaire de la commémoration de la Journée mondiale de la métrologie 2017 à Jakarta mercredi. Selon lui, aujourd'hui, il y a 37 SNI de transport indonésien qui doivent être soutenus par le système de mesures précises, fiables et traçables. LIPI, par le Centre de recherche en métrologie, joue un rôle important dans la recherche et le développement du système de mesures.
Kemampuan pengukuran dan ruang lingkup metrologi harus dikelola.
La capacité et la portée de la métrologie doivent être gérées de façon efficace et doivent toujours regarder en avant pour qu'elles puissent répondre aux exigences de la valeur standard et la précision. En plus de progrès de la science, à présent, il faut avoir la capacité de mesure compétente dans divers domaines tels que l'énergie, les matériaux, les télécommunications et l'information, la santé, le transport et les autres domaines d'application. Il doit être soutenu par la recherche, le développement et l'invasion de mesures pour en conformément à la méthode de mesure et la norme de mesure, ce qui nécessite. Certains rôles de la métrologie dans le soutien au transport national est de fournir une traçabilité des instruments de mesure utilisés tels que PT Garuda Indonesia pour assurer la sécurité des vols. Le chef du Centre de recherche de métrologie de LIPI, Mego Minandito, a dit que LIPI était très actif de participer au test comparatif de mesures du niveau régional Asie-Pacifique au Interlaboratoire Comparaison Programme de métrologie Asie-Pacifique, afin que les résultats de mesures soient fiables et reconnus au niveau international. Selon Mego Minandito, 82 mesures nationales du Centre de recherche métrologie de LIPI ont été enregistrées au Bureau international des poids et des mesures de base de données. Le président Joko Widodo a invité tous les citoyens à cesser d'accuser, insulter, calomnier et protester les uns contre les autres. Les Indonésiens doivent travailler ensemble pour développer le pays. Il a été dit par le président Joko Widodo lors de l'ouverture du 19e congrès du mouvement des étudiants islamiques indonésiens, PMII, à la grande mosquée de Darussalam à Palu, en province de Sulawesi centrale, mardi. Le président a confirmé qu'actuellement, le monde change rapidement et l'Indonésie doit suivre ce développement par un travail positif et avantageux pour le développement du pays. Le président a espéré que le PMII, comme l'une des composantes de la nation, pourrait faire partie de la solution aux différents problèmes de la nation. Nous devons continuer à suivre les changements si nous ne voulons pas être laissés par d'autres pays. Les étudiants sont les strates d'élite dans tous les pays, en particulier l'Indonésie. Par conséquent, les étudiants de PMII doivent faire partie de la solution de cette nation. À la même occasion, le président du conseil d'administration du PMII, Aminuddin Ma'ruf, a invité la jeune génération des membres du PMII à continuer de travailler pour développer le pays, parce que PMII ne veut pas l'existence d'une génération échouée. Le chômage intellectuel est une génération qui pèse sur le pays. le 19e congrès du PMII durait jusqu'au 19 mai. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Abdulrahman Mohamed Fakhir, a déclaré que la mise en œuvre des principes de la tolérance et de la démocratie en Indonésie était devenue le centre d'attention de nombreux pays. L'Indonésie a reçu l'évaluation des individus, des institutions et des gouvernements, notamment liés à ce qui se passe dans le pays. Cela montre l'importance de l'Indonésie dans le monde international. Il a été annoncé par le ministre adjoint des Affaires étrangères, Mohamed Fakhir, à l'Université Gadjah Mada à Yogyakarta, mercredi. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie est connue à l'avant-garde dans le maintien des valeurs de la diversité. Le dialogue entre religieux et le principe de la démocratie sont également l'un des sujets qui est toujours exprimé par l'Indonésie dans le forum international. Fakhir a souligné, bien que la question de la tolérance religieuse en Indonésie soit devenue une préoccupation, mais d'autre part, les efforts du gouvernement pour gérer le problème pour ne pas continuer en conflit est bien apprécié. Le gouvernement britannique soutient la coopération bilatérale pour promouvoir le développement en Indonésie dans divers domaines tels que l'éducation, l'économie et les sports. En commémoration des 91 anniversaire de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne mercredi, l'ambassadeur britannique en Indonésie, Muazzam Malik, a déclaré qu'il espérait renforcer les relations avec l'Indonésie car, selon le gouvernement britannique, l'Indonésie jouerait un rôle important au cours du XXe siècle. L'Indonésie a un grand potentiel pour devenir l'un des géants de l'Asie, en plus de l'Inde et la Chine. Selon Muazzam Malik, il veut soutenir les efforts du gouvernement du président Joko Widodo de promouvoir l'avenir de l'Indonésie. Dans le domaine de l'éducation, des partenariats de recherche entre les universités du Royaume-Uni et l'Indonésie ont atteint un niveau record en 2016, suivi de 20% du nombre d'étudiants indonésiens qui étudient au Royaume-Uni. Dans le secteur économique, les entreprises britanniques qui font des affaires en Indonésie ont ouvert 1 million d'emplois. L'observateur économique du Fonds international de développement agricole, FIDA, James Adam, a évalué à Kupang mardi que les résultats de la discussion et de la coopération au sommet international de la coopération de ceinture maritime et des nouvelles routes de soie à Pékin en Chine encouragera diverses projections de croissance économique de l'Indonésie. Il a dit, il y avait un certain nombre de résultats obtenus dans cette activité, entre autres, l'augmentation des exportations d'huile de palme brute CPO vers la Chine et la rencontre avec le premier ministre polonais Beata Szydlo pour discuter l'intensification de la coopération économique, les investissements, le tourisme et les infrastructures. C'est ce qu'a affirmé James Adam lié au sommet à Pékin qui discute des efforts pour améliorer la communication et le renforcement de la coopération économique et l'investissement dans un certain nombre de régions qui renforceront la route de la soie de la Chine. Les activités qui existent depuis plusieurs siècles sont faites par les Chinois seront en pari pour l'Indonésie pour être en mesure de devenir un centre ou hub de l'ASEAN et la Chine dans la zone asiatique. Il a dit que la Chine a l'intérêt depuis longtemps à renforcer la coopération maritime avec les pays membres de l'ASEAN. En particulier l'Indonésie, en profitant des fonds de coopération maritime de Chine et l'ASEAN qui est mis en place par la Chine. L'Université Gadjah Mada, UGM à Yogyakarta, en collaboration avec l'Académie des sciences indonésiennes, AIP, et des instituts de connaissances néerlandais, tiennent la 8e réunion ouverte des sciences OSM à Yogyakarta du 15 au 17 mai 2017. Selon les informations, ces deux institutions néerlandaises sont l'Académie des arts et des sciences du Royaume des Pays-Bas, KNAW, et l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, NWO, des Pays-Bas. Selon le président d'AIP, Sangkot Marzuki, la coopération entre l'Indonésie et les Pays-Bas est plus efficace dans la promotion d'excellence académique. Lors de la cérémonie d'ouverture de SM dans la salle du Sénat de l'UGM, récemment, Sangkot Marzuki a dit « OSM est l'une des rencontres entre l'Indonésie et les Pays-Bas tenue chaque année et participée par des représentants des hommes d'affaires, des décideurs politiques, les enseignants et les chercheurs des deux pays. Pendant ce temps, un membre du conseil d'administration du NWO, Wim van den Doel, a affirmé « L'Indonésie et les Pays-Bas ont une longue histoire de coopération dans le domaine de la recherche et le développement de la science. » Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à River Tubing sur la rivière de Tempuran. Lumajang est l'un des districts de l'est de Java. Ce quartier est entouré de montagnes sur le mont Semeru à l'ouest, les montagnes Tengger Bromo situées dans le nord et aussi la montagne Lamongan. Cela rend la région Lamongan riche en lieux touristiques exotiques. Dans la partie sud de Lumajang est bordée par l'océan Indien qui fait le charme de cette région et plus complète. De plus, la ville est traversée par la rivière Betoto avec des eaux cristallines. La rivière de Tempuran, qui est aussi appelée la rivière de Betoto, est située dans le village de Tempuran, le district Senduro, la région de Lumajang, Java Est. Cette rivière est utilisée pour le tourisme de river tubing. River tubing est le voyage en descendant la rivière avec des pneus de voiture. Cette activité sur la rivière de Tempuran a commencé à la fin de 2013. L'idée de développer le jeu dans la rivière à l'aide de ces pneus provient de la jeunesse du village local. Sur la rivière, il y a 5 rapides. Le nombre peut varier, ça dépend de la météo. Par exemple, s'il y a les inondations, le nombre des rapides va changer. Dans cette activité, vous serez accompagné d'un guide. Au cours de toute rivière, vous descendiez les rapides avec une vue sur les arbres de bambou le long de la rivière. L'air est frais et clair et la zone riveraine verte, vous pouvez profiter le long du chemin. Sauter d'une falaise peut être faite dans pose 1 de la rivière de Tempuran. Et ici, vous pouvez se reposer, boire de l'eau minérale pour un moment avant de poursuivre le voyage. Suivre l'écoulement de la rivière principale est la meilleure façon afin de ne pas être gêné au milieu de la rivière. Le point final du rafting sur la rivière de Tempuran est le pont. Au point final, vous serez pris en charge par un pick-up. Le point final d'exploration de la rivière de Tempuran est dans le village de Kemuning, situé dans le quartier de Lumajang. De là, vous revenez au point de départ du camp de Tube Rivière. Et pour essayer Tube Rivière de Tempuran, vous devez payer 48 000 rupiah par personne. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec l'Indonésie en couleur. Ce soir, nous vous informons sur Venice Art Biennale, soit Biennale d'art de Venise. Donc, restez toujours avec nous, le Service mondial de la République Indonésie, la voix de l'Indonésie. La ville Venise en Italie est connue pour être un des centres de rassemblement des artistes du monde. Connue comme une ville d'art, Venise, pour 6 mois de mai à novembre, lance une plus grande exposition d'art contemporain dans le monde. La 57e Biennale d'art de Venise, intitulée Viva Art Viva. L'exposition est animée par 120 artistes de 51 pays, y compris l'Indonésie. La participation de l'Indonésie à la Biennale d'art de Venise 2017 est une forme de soutien du gouvernement de continuer à significativement promouvoir des œuvres importantes de l'industrie créative indonésienne dans une variété d'événements importants dans le monde, y compris l'art contemporain. Dans l'exposition de Biennale d'art de Venise cette année, l'artiste indonésien né à Bali, nommé Tintin Wulia, devient représentant de l'Indonésie. Dans l'exposition, par son travail, Tintin prend pour thème « Mille ans martien zone ». Ses œuvres sont exposées dans le pavillon d'Indonésie à Arsenal, mesurant 70 mètres carrés. Mille ans martien homme parle du temps et de l'espace qui reliait les êtres humains. La Biennale d'art de Venise 2017 est officiellement ouverte au public le samedi 13 mai 2017. Néanmoins, le pavillon indonésien et aussi un certain nombre d'autres pays ont inauguré le pavillon le 10 mai 2017. Au moment de son inauguration hier, les visiteurs ont été spécialement invités par les organisateurs de la Biennale d'art de Venise 2017. La plupart d'entre eux sont des artistes, des journalistes et des célébrités origines de différents pays. L'inauguration de pavillon indonésien signifie avec la coupe de tumpeng, soit le cône, par l'agent chef de l'économie créative étant également président du commissaire de pavillon indonésien Ricky Pesik. Puis la cône était soumis à la Tintin Wulia, le grand conservateur Wujarnika et d'autres activités était également présent l'ambassadeur désigné pour l'Italie Esti Andayani et personnel de l'ambassade à Rome et les représentants de la communauté indonésienne en Italie. En même temps, à Senayan City Mall à Jakarta a également mené des activités de l'inauguration du pavillon indonésien par le chef de l'économie créative Triawan Munaf. Ce pavillon est fait similaire à celui de la Biennale d'art de Venise 2017. Deux pavillons sont reliés via une connexion Internet. Chers amis, c'était Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, Service international La Voix d'Indonésie sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit pop et dangdut. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.vo.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse qui était populaire aux années 80 et 90 avec sa chanson qui est très harmonieuse intitulée Kemuning. Bonne écoute. Thank you. Serviteurs, c'était la chanson des Ticus Endang, Kemuning. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Hetty Kusendang, une chanteuse qui est très habillée avec différents types de chansons, à la fois kroncong, pop et malais. Elle est sans langue sundanaise Minang. Depuis l'enfance, elle participait le monde de chant et elle a gagné divers concours de chant, y compris la vedette de la radio et de la télévision. Puis elle a remporté une myriade de réalisations qui ne peuvent pas être atteintes par d'autres chanteurs pop dans le pays. Ses réalisations sont entre autres, elle a représenté l'Indonésie à WPSF Tokyo et a gagné Most Outstanding Performance avec Aji Bandi, un compositeur de la chanson intitulée P. Meahit 1977. Ses chansons hits intitulées entre autres Kemuning, composé par Arianto en 1979, Trois de Rinto Harap en 1980, Pra, composé par Pras, qui est devenu le deuxième champion au Festival national des chansons en 1982 au Festival des chansons de l'Asian. Elle a chanté la chanson intitulée Chanson d'amour avant l'aurore. Serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante de Ticus Endang intitulée Froa. Bonne écoute.
Ada sama orang.
Chers auditeurs, la chanson intitulée Kemuning, composée par Arianto et Dingin de Rinto Harahap, chacune devient hit dans le pays. Ces chansons ont été bien acceptées par le marché. Mais la plus belle d'une chanson, si elle n'est pas soutenue par un chanteur qualifié comme Hetikus Endang, est difficile à devenir hit. Comme la chanson de Minang, intitulée Rentrer frère, chantée par Hetikus Endang, est devenue hit. Bon, secrétaire, avant de terminer notre programme, voici une chanson d'Hetikus Endang intitulée Paye ma arid. Bonne écoute et au revoir.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Sepoi-sepoi
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.